Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Il y a deux choses dont il faut se méfier dans la vie, les prix et les mémoires. Je vous dis ça parce que c'est au moment où ressortent enfin les mémoires d'un vieux con de Roland Topor que Jean-Michel Ribe a l'idée d'organiser le premier prix Topor. Du coup, me voilà tout suspicieux. Pas le plus joli mot de la langue française, j'en conviens, et certainement pas ma disposition d'esprit au quotidien. Mais je compte sur cette émission pour dissiper tout malentendu. D'abord, les mémoires d'un vieux con, titre quasi pléonastique, tant les mémoires sont généralement le fait de vieux cons, et à quelques exceptions près, 100 ans, au nombre desquels ceux de mon père, cet homme admirable qui a laissé une telle trace dans les mémoires qu'il aurait pu se dispenser d'écrire les siens. Et d'un autre George, George Sanders bien sûr, et ses mémoires d'une fripouille, sans doute un des livres les plus spirituels jamais écrits, comme ceux de Groucho Marx, et bien sûr les mémoires de Jean-Michel Ribe, un ouvrage admirable intitulé « Mille et un morceaux » dont la seule faiblesse est de ne pas parler de moi. Sans doute parce qu'il était déjà trop occupé par la préparation des prix Topor, qui sont plusieurs même si lui, Topor, était unique. Voilà de quoi il va s'agir aujourd'hui dans Pop Pop Pop.
France Inter.
Pop Pop Pop.
Antoine Decaune.
Bonjour Jean-Michel Ribe.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Oui, parce que là, quand je suis avec vous...
Vous allez toujours bien quand vous êtes avec moi ?
En général, oui, à 90%, je parlerai de 10%, mais hors antenne.
Vous allez aller encore mieux quand je vous aurai présenté Charline. Charline Roux, bonjour Charline.
Bonjour messieurs.
Bonjour Charline.
Oui, ça va.
Ça va aussi ?
Je vous remercie.
Bien,
voilà. Vous avez l'air.
On oui, m'avait ça va,
dit,
je
elle
me...
est comme.
Non, moi, je ça dépend des jours, ouais, c'est fluctuant, mais là, ça va
bien.
Plutôt bien.
Elle est plutôt bien aujourd'hui. Il y a des hauts, il y a des bas, mais là, aujourd'hui.
Non,
on est dans les hauts. On est dans les hauts, oui. Alors, voilà pour le menu. Je laisse à Michel Faux, l'un des jurés du prix Topor, que nous recevions il y a peu, le soin de lancer cette émission.
Bonjour, c'est Michel Faux. Pop, 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 c'est parti.
Et quel entrain, Jean-Michel Ribe.
Ouais, oui.
Jean-Michel Ribe, ici, il existe une question encore plus stressante que le rire de Roland Topor en boucle. Oui, bon, ça va. Et cette question, c'est... Jean-Michel Ribe.
Oui.
C'est quoi pour vous la pop culture ?
C'est la culture du désir.
C'est tout.
Voilà. C'est-à-dire, c'est la culture de dire oui, c'est tout, parce que c'est la base. Je trouve que on est souvent, et de plus en plus en ce moment, dans un devoir de culture et non pas dans un plaisir de culture. Mm-hmm. Et j'ai l'impression que la pop culture est absolument, comme son nom l'indique, populaire à partir du moment où elle est engendrée par une réponse au désir. Je ne sais pas si engendrée va, mais enfin, vous corrigerez.
Si, ça
va. Et je suis frappé par ça, d'ailleurs, que la culture, il y a un moment que j'ai connu avec de grands ayatollahs et de grands prêtres et des autoroutes de la culture dans lesquelles il fallait pas, desquelles il fallait pas partir. Je suis toujours sidéré du fait que souvent le mot plaisir, le mot désir sont comme des choses qui font trembler ceux qui normalement sont les gardiens du temple de la culture. Mmh. Je crois que sans désir et sans plaisir, il n'y a pas de culture. Et la pop culture, ça commence par là. Et je veux dire de Rabelais à Victor Hugo, à vous, c'est d'abord du plaisir. Et à partir du moment où il y a du plaisir, il y a de l'intelligence. On ouvre et on s'envole.
Du plaisir, vous allez en avoir dans cette émission. C'est moi qui vous le promets, Jean-Michel. La pop culture, on continue d'en parler juste après le premier morceau de cette émission. C'est Need Your Love de Curtis Harding.
I want you to stay, don't go away now. time in every man's life when he's got to have his woman's love. Y'all don't hear me? Bring that bass back in. All right. When I'm by my break, all I can take now, I need your love. You made me feel.
C'est Curtis Harding et il a besoin de mon amour. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et notre invité aujourd'hui s'appelle Jean-Michel. Mais de quel Jean-Michel de la pop culture s'agit-il? Est-ce Jean-Michel Apathy, Jean-Michel Aulas, Jean-Michel Larquet, Jean-Michel Jarre ou lui? Jean-Michel, à peu près. Réponse avec son pop portrait. Alors oui, un pop portrait, ben c'est votre portrait, Jean-Michel, mais...
À base de pop, pop, pop.
Et c'est signé Charline Roux.
Qui est à peu près aussi. Aujourd'hui, nous recevons un homme de théâtre couvert de prix qui a décidé d'en faire de même avec les autres. Les couvrir de prix. Ce serait donc ça la théorie du ruissellement. Et donc ça marche apparemment dans certains domaines, mais bon, je m'égare. Puisqu'il n'est pas question de pognon, mais de talent, notre invité en a à revendre, mais comme je l'ai dit, point de commerce ici, du partage et de la transmission. Nous recevons un auteur, acteur, metteur en scène, scénariste, réalisateur. Il est le point commun entre théâtre sans animaux, bataille, bref de comptoir, musée, bas choix extrêmement partiel, je le précise. Mais appelons-le tout simplement Monsieur le Directeur, puisque depuis 17 ans, il est à la tête du Théâtre du Rond-Point à Paris, dont il a décidé de faire une maison de création dédiée au théâtre d'aujourd'hui. Modernité et héritage, puisque Jean-Michel Ribes met au port à l'honneur en faisant un prix, enfin ou plutôt des prix, destinés à récompenser l'inattendu, l'audace et la créativité, et en mettant bientôt en scène ses chansons dans Folie au Théâtre du Rond-Point. Pardi. Et en sus, il publie chez Actes Sud, Crise et Cris, un recueil d'aphorismes bien utile pour avoir de l'esprit, quand on en manque.
Non, je t'ai plus, la brouette est... pleine. Souhaitez-vous qu'on vous appelle Monsieur le Directeur pendant toute la durée de l'émission, Monsieur le Directeur?
Écoutez, moi je pense que si ça vous fait plaisir, parce que d'un autre côté, qu'il y a un directeur dans votre émission,
enfin.
C'est rare. Mais vous pouvez m'appeler aussi Jean-Michel ou mon ami ou... je sais pas, comme vous voulez,
bon,
cher Antoine.
Monsieur le Directeur, pour commencer.
Très bien.
Alors, vous dites écrire une pièce me rend malade, la montée me guérit. Entre les deux, que lisez-vous, que regardez-vous, qu'écoutez-vous? C'est votre pop liste. Monsieur le Directeur Jean-Michel, nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série. Pour le film, vous avez porté votre choix sur Free Billboards, les panneaux de la vengeance réalisés par Martin McDonagh, sorti en 2018. Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes prend les choses en main, affichant un message controversé visant le très respecté chef de la police de la petite ville sur trois grands panneaux à l'entrée de leur ville. Bande-annonce.
Elle dit quoi, la loi, sur ce qu'on a le droit d'écrire sur un panneau? Je suppose qu'on doit éviter la diffamation et de dire foutre, pute ou connard, c'est bien ça?
Ou anus?
Alors, je pense que ça ira.
Mildred Hayes, pourquoi avez-vous mis ces panneaux?
Ma fille, Angela, a été assassinée il y a 7 mois et la police est trop occupée à torturer les Noirs pour avoir le temps d'arrêter les vrais criminels.
Je suis la première à espérer que tout ceci mettra enfin un terme à l'étrange saga des trois panneaux, à l'entrée de...
Ça met un terme à que dalle, pauvre demeurée. C'est que le début des réjouissances. T'as qu'à foutre ça dans ton bonjour Missouri, matinale pourrie de mon cul, pétasse.
Vous aurez bien entendu reconnu la version française. Alors c'est de l'humour...
De Frances McDormand.
De l'humour noir, sarcastique, caustique et malpensant. C'est du sur-mesure pour vous, Monsieur le Président Jean-Michel Ribes.
Oui, alors, de directeur à président, après
ouais,
président,
c'est mieux,
oui. C'est mieux, oui. Non, mais par-delà ça, je trouve que ce qu'il y a de magnifique dans ce film, et je crois qu'il rejoint la pop culture par rapport à la définition approximative que j'en donnais tout à l'heure du désir, c'est que non seulement c'est décalé, non seulement c'est à côté, non seulement c'est ça trébuche, mais ça raconte plein de choses. C'est-à-dire que sans se prendre au sérieux, et c'est ce qu'il y a de mieux, ça raconte plein de choses. Et je trouve que, en particulier, ce que ce film jubilatoire raconte, c'est l'absence du manichéisme. C'est-à-dire, les salauds deviennent des bons, les bons sont des ordures. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui casse le happy end, l'espèce d'écriture américaine du film. Toujours, on se dit, ah, enfin, ils vont se marier, etc. Je trouve que c'est formidable. L'actrice principale, d'ailleurs, qui est, je crois, une épouse d'un des frères Cohen. Oui. Je sais pas, il y a quelque chose là qui raye le verre, quoi, qui sort de quelque chose d'habituel. Et moi, je pense que quand on dérange les gens pour aller au cinéma, la moindre des choses, c'est qu'on les dérange après. Et j'ai l'impression que là, ça réunit tout. C'est-à-dire que c'est drôle, c'est très ouvert, c'est populaire, et en même temps, c'est d'une intelligence qui se prend jamais au sérieux. J'ai adoré ce film.
On ne saurait mieux dire. Pour la série, vous faites un choix un poil mégalo, mais on valide, car vous choisissez la série Palace, une série créée par un certain Jean-Michel Ribes, diffusée entre 88 et 89 sur Canal+. Écoutons un extrait avec Valérie Lemercier.
Hello les amis! Vous êtes très nombreux à me demander si les gens qui vivent au Palace sont faits comme tout le monde. Les hôtes du palace se lavent-ils? Les mâles ont-ils deux couilles et les femmes une paire de seins? Les règles sont-elles mensualisées? L'amour est-il plus raffiné? Passe-t-il par les mêmes organes? Mon Dieu, que vous êtes naïfs! L'organe le plus important au palace, c'est quand même le portefeuille. Alors à quoi bon vous tourmenter inutilement? Si votre portefeuille est sain, tout ira bien. S'il est malade, allez vous faire foutre.
On aura reconnu Lady Palace. Ça vous fait quoi de réentendre ça 30 ans plus tard, Jean-Michel Ripp? Ou peut-être le réécoutez-vous tous les soirs en vous
Non, je le réécoute pas, mais ça continue à passer tout le temps. Mais d'abord, Valérie Mercier, c'était une expérience incroyable, parce que l'histoire, c'est quand même une étoile aînée, dans la mesure où c'était Dominique Lavanant qui faisait Lady Palace, qui a eu un chagrin d'amour tel qu'au bout de la troisième jour de tournage, elle dégoulinait de pleurs à chaque fois que je la filmais. Donc à un moment, j'ai été voir Fechner, je lui ai dit, écoutez, je crois qu'il faut faire quelque chose. Je dis, il y a une petite jeune femme figurante qui est là, que j'avais fait jouer dans un film avant, qui est formidable. Non, je vais une star, etc. Je dis, essayez. Voilà, et c'est devenu Valérie Lemercier. Voilà. Donc ça. Non, ça me fait. Vous disiez que c'est une attitude mégalo d'avoir choisi Palace. Moi, oui, je pense que c'est une attitude.
Je la comprends très bien.
Plutôt ça prouve que j'ai du goût et que je vais vers les choses importantes et essentielles. Et
absolument.
Voilà. Et alors, je vous avais promis un scoop, je le fais.
Allez-y.
Il y a quelques années, j'étais à New York, il y avait quelqu'un qui avait vu Palace, etc. Je présentais un film et il m'a dit, mais tiens, je présentais un producteur de Broadway, tu devrais faire quelque chose avec ça à Broadway. Enfin, tout d'un coup, ça part en trois dîners, c'est fait, etc. Puis je m'aperçois que comme vous le rappelez, je dirige le Théâtre du Rond-Point, donc je ne peux pas passer 6 mois à New York. Donc je dis non, un peu le cœur blessé, mais je dis non. Et 5 ans après, cette idée me revient comme ça, puis j'en parle à Richard Kaya, qui est un des producteurs qui dirige plein de théâtres, en particulier le Théâtre de Paris, qui dit, moi je le fais tout de suite. Et donc on va faire en 19 une espèce de immense saut, qui c'est Palace sur scène, c'est-à-dire ces références qui sont peut-être un peu trop immodestes, mais c'est un peu, c'est un peu les Monty Python au Lido, quoi.
Palace sur scène, ça sera en 2019, ouais, à Paris.
C'est un scoop, hein,
véritable scoop.
J'en ai parlé à personne, tout le monde m'a dit, dis-le d'abord à Antoine, je lui ai dit, voilà,
je le vois. On peut réserver quand?
dans très bientôt. Non, mais ça me fait plaisir parce que j'espère aussi je m'en occupe beaucoup, on va trouver tous ces gens qu'on a découverts, que ce soit Morel, Lemercier, etc., d'aujourd'hui, avec en plus quelques points forts dans la distribution.
Merci, monsieur le directeur, pour cette information scoopitesque. Jean-Michel Ribes, pour le livre, vous avez choisi « Petit traité d'éducation lubrique », écrit par Lydie Salvert, présenté au Rond-Point du 4 au 8 avril 2018. Écoutons l'auteur parler de son petit traité.
Je crois que j'avais le désir plus ou moins conscient de me défaire de l'image honorable, respectable, solennelle d'un prix Goncourt. J'avais peur d'être captive de cette image-là. Je voulais pas me laisser impressionner, intimider moi-même par la chose. Et donc le petit traité était une occasion de vérifier que je pouvais disconvenir.
Un texte qui est un petit bijou de drôlerie, récemment réédité d'ailleurs en livre de poche. vous a plu, émoustillé.
Oui, c'est-à-dire que ce que dit Lydie, c'est important. D'abord, ça montre que les prix Goncourt n'ont pas de sexualité. C'est important, puisqu'elle dit « je voulais m'en sortir pour montrer que j'en avais une ». Donc ça, c'est un scoop important. La deuxième chose, c'est que c'est écrit avec une élégance. Il y a des descriptions de la fellation qui rappellent peut-être Stendhal. Enfin, c'est quand même quelque chose de tout à fait étonnant, de décalage entre un style pur et merveilleux. Et c'était très drôle, parce que les gens à la salle, quand même... Y aller, parce que le style les encourageait à écouter, et tout d'un coup, bam, ils s'apercevaient de quoi on parlait, ils sont passés. Et alors, il y avait à ce moment-là un grand moment d'érotisme déglingué au rond-point, parce qu'il y avait aussi l'opéra porno que faisait Pierre Guillois, et où les gens étaient morts de rire. Et je dois dire que c'était assez bien. Plus Steve Cohen, qui est un performeur sud-africain, qui lui, c'est au-delà de tout ce qu'il propose. Donc, on a eu un petit moment comme ça, en effet, où tous les prix Goncourt ou les évêques de Chartres, etc., venaient là pour se déshabiller de leur corset de conventionnalité et de sérieux. Non, bon. C'était un moment de... Là aussi, c'était de la pop culture, parce que c'était des plaisirs, c'était ravissant, et ça montrait que la vulgarité n'existe absolument pas quand elle est maniée par des gens de talent.
Et c'est un livre que je recommande plus que chaleureusement, le livre de Lydie Salvert. Bien, et pour la chanson, vous avez choisi ça. Femme, je vous aime, de Julien Clerc, sorti en 1982. C'est une déclaration, Jean-Michel Ribes, ou un intérêt particulier pour les tampons hygiéniques Vania qui utilisent cette chanson pour leur pub?
Vous pouvez répéter votre question?
Je dis, est-ce que c'est...
Vous êtes sûr?
Une déclaration, ou bien un intérêt particulier pour les tampons hygiéniques Vania qui utilisent cette chanson
non,
pour leur publicité?
Non, j'ai rien contre les tampons hygiéniques. Maintenant, il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc, c'est pas moi qui vais aller contre les tampons hygiéniques. Je tiens pas à avoir une plainte sur MeToo, je sais pas quoi. Non, ce que je crois simplement, c'est que je suis allé voir Julien Clerc à l'Olympia. Je le connais bien. Et je dois dire, j'ai été époustouflé, justement, de ce moment en particulier. Le concert était magnifique, mais où, tout d'un coup, ça traverse quand même un tout petit peu les âges et le temps. Et c'est une réponse à Harry Weinstein, « Femme, je vous aime », il les aime différemment que le producteur américain. Et je trouvais cette chanson très belle, et je trouvais que c'était un hommage aux femmes qui m'a beaucoup parlé, beaucoup touché. Et en même temps, je trouve que de dire qu'on aime les femmes n'est pas toujours quelque chose de dégueulasse.
Alors, je résume. Free Billboards, Palace, Petit traité d'éducation lubrique et Julien Clerc. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça donne ça.
Je suppose qu'on doit éviter de dire foutre plutôt connard, c'est bien ça?
Le défaire de l'image
anus.
Honorable, respectable.
Hello les amis! Je vous aime. Mon Dieu, que vous êtes naïfs!
C'est que le début des réjouissances. Je vous aime. Pétasse!
Allez vous faire foutre!
Nous voilà avec du concentré de Ribes.
Oui, enfin, il y a plusieurs gens que j'aime. C'est vrai qu'on est toujours un petit peu ce qu'on aime, mais il y en a d'autres.
Bien sûr.
Comme vous avez vu, vous avez énoncé mes nombreux métiers, etc., qui sont presque aussi nombreux que les vôtres, cher Antoine. Donc, dans chaque catégorie, je peux ramener d'autres choses encore.
C'était un instantané. Alors, poursuivons ce pop-pop-pop avec la pop de Damon Albarn et le morceau Mr. Tembo.
In Chile, can I sing with you about Mr. Tembo and what he's got to do? But first I'm going back to the co-op road to find the mission and help him with his load. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels.
TV in Mr. Tembo's room. Of the emphatic night, he checked in on his own at Mokomazi Inn and made it his home. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. But to get there, he will need a helping hand. It's where he is now, but it wasn't what he planned. It's where he is now, but it wasn't what he planned. In Chile, we will sing to you about Mr. Tembo and what he's going through. Gets up early while you are still in bed. Mr. Tembo, great blanket by his head. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song.
Haulage, golf, bungalows, spires, canals, cows, hay bales, telegraph wires, pylon power, farmhouse oak, chimneys, still used, domes, satellites, football pitches, faded flags and lots of dogs, neon cross on top of a block of flats and a church, not as usual.
Mr. Tembo's on his way.
Damon Albarn dans Pop 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 sur France Inter avec le morceau Mr. Tembo, un morceau de 2014. Nous sommes toujours en compagnie de monsieur le directeur Jean-Michel Ribes pour parler de l'homme au rire le plus contagieux de la planète pop. Eh oui, Roland Topor, les prix Topor, Kezako, monsieur le directeur, quand, où, comment et pourquoi ? Expliquez-moi.
Alors,
ça.
Je vais m'arrêter à pourquoi. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce qu'il me semblait qu'il y avait un vide immense dans ce qu'on appelle les prix des récompenses, qui oubliait un peu tous ces créateurs qui sont un peu éloignés des chapelles du bon goût et des morales définitives, et qui sont gigantesques, les mauvaises herbes de la culture, bien plus parfumées que les glaïeuls de l'institution, etc.
Oh, c'est joliment dit.
Oui, je me suis dit, je vais dire un truc joli.
Vous pouvez me la refaire, celle-là ?
Les mauvaises herbes de la culture qui sont bien plus parfumées que les glaïeuls de l'institution.
Je la garde et je la note.
Oui, ouais. Si vous voulez la repasser à chaque émission, parce qu'il y a souvent des invités, c'est un peu plat, donc vous mettez ça et ça remonte.
On peut en faire du merchandising dans des t-shirts, un peu commercialisés ou...
Ça, ma chère, c'est à vous de
décider. Ah bah non, mais il y a un copyright.
Oui, non, mais je vous donne tout. Tout est à vous.
Il faut passer par la gère quand même.
Les intitulés des prix distribués étaient assez savoureux. Hein. La boulevardière qui sort du cadre à Chantal Latsou, l'obscénité nécessaire à Villemain, le lancer franc à Noël Godin. Les intitulés se devaient d'être au moins aussi fantasques que les gens que vous récompensiez.
Il ne devait pas l'être sur scène, en tout cas ça s'est passé. Philippe Catherine a été absent, formidablement drôle. Une jeune fille que je vous recommande, qui s'appelle Agnès Hurstel, on parlait de Blanche Gardin, je pense que c'est pas elle, mais c'est de cette qualité-là. Non, ils sont venus, d'ailleurs c'était drôle, parce que Philippe Catherine m'a dit, mais c'est mon meilleur prix, il est sur mon piano, etc. Il y avait quelque chose de très touchant, c'était qu'ils n'étaient pas du tout dans l'extravagance habituelle. Non, mais on avait fait venir sur scène un certain nombre de gens qui compensaient peut-être leur absence d'extravagance quand ils recevaient les prix. Et puis c'était bien parce que c'était un jury, c'est-à-dire que, vous savez, tous les prix sont injustes, le prix Topor aurait été beaucoup plus injuste que les autres prix. Et on, c'est tout, tous les jurés étaient présidents du jury. Et en plus, si leur cousin était doué, ils avaient le droit de le nommer, quoi. ou même eux, ils se remettaient un propre prix. Non, c'était une soirée merveilleuse qui a été diffusée sur France 3, etc. Et je trouve qu'il y avait une espèce de, comment dire, de bouffée. C'est pas contre les Molières, contre les Césars. C'est pas du tout ça. C'est un espace qui n'était pas habité.
Une alternative.
Comment ?
Une alternative.
Oui. Sinon, une alternative, un complément, je dirais, pour tous ces gens un peu oubliés. Et surtout, je trouve que ce qui était important, c'est de montrer. Enfin, moi, j'essaie de programmer au. Attention, c'est une phrase pas mal.
Hein. Allez-y, je note.
Non, j'essaie de programmer au théâtre, non pas ce que les gens aiment, mais ce qu'ils ne savent pas encore qu'ils aiment.
Ça, c'est bien.
Et hein ?
Ben, je l'apprends aussi.
Oui. et si vous voulez, je trouve qu'il y a plein de gens qui ont découvert, le public, qui ont découvert des choses. C'est un tout petit peu l'ADN du rond-point. C'est-à-dire que on n'a pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de subventions et de loin, mais on a un public extrêmement fidèle parce qu'on leur a fait découvrir des gens de James Siret à Pippo Lebono en passant par des tas de gens. Et tout d'un coup, ils ont découvert des choses qui ne se passaient pas. C'est-à-dire qu'il y a la surprise en plus du plaisir de trouver des gens.
Et le Grand Prix 2018 a donc été attribué à Philippe Catherine. Il réunit toutes les qualités toporiennes, Philippe Catherine ?
Bon, c'est impossible parce que Topor est une espèce de... comme ça, de comètes effervescentes qui jaillit de tous les côtés, dans tous les sens, du théâtre à la chanson, en passant par le roman, en passant par les dessins et la peinture. Non, mais Philippe Catherine, il a quelque chose, en effet, qui... comment dirais-je ? Il a quelque chose qui a, dans l'insolence d'être lui... est quelque chose de tout à fait libre et qui est proche de Topor. Mais il y avait aussi Jacques Dutronc qui nous a et son fils à qui on a donné un truc, qui nous a envoyé une vidéo depuis Corse extrêmement bouleversante et formidablement drôle. Non, c'est... Et puis après tout, c'est des gens qu'on aimait. Voilà. Et c'est tout. Un peu comme vous pour cette émission.
Mais alors le constat pré-cérémonie, c'est quoi ? C'est qu'on manque cruellement de fantaisie ? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les civils au quotidien ? Monsieur le directeur, vous avez des prescriptions.
Vous avez dit les physiques ou les civils ?
Les civils, je voulais dire, civils. Mais j'ai fourché. Je vous remercie de le souligner.
Moi, je préfère de dire les physiques, hein. Je trouve que c'est une bonne idée.
Alors les physiques, comment on...
Au quotidien.
Au quotidien.
Bah, moi, je crois que c'est absolument impossible de ne pas résister à ce qui nous ennuie, quoi. Je veux dire que ce qu'il faut. Là, on est quand même dans un moment, je disais tout à l'heure, le devoir de culture par rapport au plaisir. Moi, j'en peux plus de l'éducation culturelle. J'en peux plus d'être obligé d'épouser la Joconde, des mariages forcés avec Mozart. Il y a quand même des tas de choses à côté qu'il faut faire, qu'il faut montrer. Je veux dire, Duchamp disait, l'œuvre est faite par celui qui la regarde pas à notre place. Je veux dire, pas à celui qui l'enseigne. Je veux dire, il y a des tas de choses qu'on n'a pas le droit d'aimer. Et moi, je pense que la Joconde sourit parce qu'elle a rencontré un jour, non pas un Japonais, mais un petit type qui était là, qui l'a trouvé merveilleuse, amoureuse, sans savoir qui elle était ni qui l'avait peinte. Je veux dire, il y a une espèce de préalable à la culture, préalable à l'action culturelle. Il faut apprendre ceci, il faut apprendre cela. Non, il faut retrouver l'émerveillement, il faut retrouver la magnifique sensation qu'on a devant le chant des baleines, devant la lune. Il y a quelque chose comme ça.
Ah, phrase extraite de votre ouvrage, d'aphorisme.
Ouais.
Je l'ai notée, celle-là, elle me plaît beaucoup.
Ouais.
L'émerveillement des baleines devant la lune.
Bah, ouais. D'abord, je suis touché que vous la... Je suis touché par deux choses. D'abord que vous la citiez, et ensuite, ça prouve que vous avez lu ce livre.
C'est la moindre des choses.
Non, c'est pas la moindre des choses. Moi, je fais beaucoup d'émissions avec des gens qui non seulement ne savent pas ce que j'ai écrit, ce qui est pas grave, ça n'empêche pas, mais je me demande même si parfois ils se trompent de nom quand ils me voient.
Jean-Marc Ribes, ça ne risque pas de vous arriver ici. Alors, impossible de faire une émission sur Roland Topor sans l'écouter. Tiens, par exemple, nous parler des tabous.
Il semble que les gens ont très honte de la façon dont ils sont nés. Ils sont sortis d'un sexe féminin, homme et femme, et ils ont été faits par un sexe masculin qui a éjaculé dans un sexe féminin. Ils devraient être fiers. C'est comme si on parlait peinture et qu'on ait honte des pinceaux et de la palette. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, est-ce que j'ai honte de ma mère et de mon père, moi ? Non, j'ai honte des autres. J'ai honte des gens qui prétendent ne pas être animaux et qui sont des bêtes. On mange par devant, on chie par derrière. Et je pense que les grands amateurs d'ordre et de propreté qui prétendent que la merde est la pire chose qui existe, puisqu'elle est la trace animale des repas succulents, des mets remarquables. Puis on n'a plus rien à faire avec cette merde. Or moi je trouve que ça sert au moins à une chose, c'est à être la preuve de la vie, et je préfère la preuve de la vie, même si c'est une merde, que l'amour de la mort qui consiste à éliminer toute trace animale.
Roland Topor, c'était en 1986. Ça pourrait avoir été dit hier soir.
Oui, c'est-à-dire que Roland, avec qui je travaillais trois fois par semaine pendant 15 ans, qui était une espèce de... À chaque fois qu'on travaillait ensemble, je sortais là, c'était comme si j'avais passé 15 jours à Tahiti, je revenais bronzé et heureux.
15 jours à Tahiti?
Oui.
Et vous preniez quoi pendant ces séances de travail, si je peux me permettre?
Non, rien, on prenait nos délires, simplement. Mm-hmm. On aurait pu d'ailleurs les commercialiser.
En toute sobriété?
Oui, en toute sobriété. Non, pas tout à fait en toute sobriété.
Voilà.
Non, mais ce que je crois surtout avec Roland, c'était que c'était toujours le contraire du consensus. C'est une issue de secours, Roland Topor. C'est-à-dire quand on est enfermé par la prison du sens ou des raisonnements ou des religions, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a une issue de secours et qu'on peut aller respirer ailleurs. Et ce qu'il dit là, comme il dit tellement de choses qu'il a dites, il y a une chose que j'aime beaucoup qu'il a dite, c'est dès qu'on parle, on devient quelqu'un d'autre, ce qui est tout à fait juste, parce que ce que vous entendez en ce moment n'est évidemment pas moi. C'est quelqu'un qui était toujours dans la surprise, qui apportait d'autres solutions, qui avait aussi un ennemi formidablement fort, qui combattait toujours, qui était l'esprit de sérieux. Qui était... Et ça, je dois dire que, vous savez, quand Roland est disparu, j'ai pendant un an... Oui, pendant un an et demi, tous les matins, automatiquement, je faisais son numéro de téléphone. C'est-à-dire que j'arrivais pas à m'en passer, quoi. C'est quelqu'un qui montre que tout n'est pas foutu, qui montre qu'il y a d'autres solutions, d'autres voies, et que surtout son rire panique qui faisait dérailler tous les trains d'emmerdement, qui était une protection absolument à tous les emmerdeurs et à tout ce qui nous tombait sur la gueule, était quelque chose de magnifique. Et en même temps, évidemment, c'était quelqu'un de totalement tragique, car s'il n'y a pas de tragique, il n'y a pas d'humour.
Vous marquez souvent la différence entre humoriste et ricaneur. C'est pour vous absolument contradictoire en matière de rigolade?
Ouais. Bah, si vous voulez, moi j'ai essayé de faire, ça va être réédité parce que curieusement ça n'a pas trop mal marché, une grosse encyclopédie qui s'appelait Le rire de résistance de l'Antiquité jusqu'à Charlie Hebdo, tous ces gens qui ils ont délivré du sérieux, des dictatures, de la pensée, etc. Je dirais qu'il y a un rire de résistance et il y a un rire collabo. Le rire collabo, c'est « Ah, tiens, le chat a encore pissé sur la chemise de la patronne, la bonne... » C'est-à-dire que ça bouge pas, quoi. Ça fait rire avec rien, avec des choses qui sont pas dérangeantes. Et j'ai l'impression quand même que quand Rabelais à Voltaire face au juge dans l'affaire Calage, de Jarry qui annonce tous les dictateurs qui vont arriver dans le cycle d'appel avec Hugues du Roy, il y a quelque chose qui doit être toujours fort, presque poétique, insolent, insensé, mais qui part vraiment de grands créateurs et de grands artistes, des gens courageux. Alors, les ricaneurs, c'est vrai que il y en a partout, et ça finit par aboutir à l'envers de ce qu'ils cherchent, oui. J'ai rien contre chacun le droit de vivre, mais disons que c'est pas la même chose, oui.
Comme vous le rappeliez il y a quelques instants, Jean-Michel Ribes, vous avez commencé à travailler avec Roland Topor au début des années 80, à la télévision,
oui.
Okay, avec Merci Bernard et Pallas. Réécoutons un nouvel extrait de Pallas avec un certain Roger.
Ah, voici notre premier appel.
Allô, Lady Pallas?
Oui, c'est elle-même. Bonsoir, monsieur, comment vous appelez-vous?
Roger.
Oh, mais c'est un très joli nom, ça, Roger. Hein, en général, les Rogers se sentent très bien dans un palace.
Ben justement, pas moi.
Oh, vous m'étonnez, Roger.
Ben peut-être, mais les gens, ils vous regardent d'une drôle de façon. Hein.
Oui, vous avez le sentiment que le regard de l'autre vous exclut de ce bel hôtel, Roger, c'est ça?
Ah non, c'est pas exactement ça, non. C'est froid, quoi.
Roger, je ne veux pas vous croire. La convivialité du Royal King est réputée dans le monde entier.
Tiens, et là, dans le grand hall, là où que je vous appelle. Hein, si vous voyez la tête des gens qui sont en face de moi, ils ont l'air presque écœurés.
Bon, alors Roger, que comptez-vous faire?
Ah ben là, c'est pas compliqué. Si ça continue, je remonte mon pantalon, je range mon bazar et je retourne dans le métro.
Oui, je vous comprends, Roger, oui.
Non, parce que sur la ligne Bastille Nation, on vous sert peut-être pas du caviar à la louche. Mais quand je sors le biscuit, il y a du mouvement, il y a de la joie, ça crie, ça hurle. Sans toucher les dames.
Voilà, merci beaucoup Roger pour votre témoignage.
Pallas, qui a été diffusé entre 88 et 89, comment expliquez-vous que cette série soit restée tellement culte?
Alors, je tiens à dire que le Roger en question, c'était Laurent Gamelon, avec Valérie. Le merci. Je ne sais pas, je crois que les gens ont de plus en plus bon goût, quoi. C'est ça? C'est-à-dire que je pense que le public sait maintenant où ça se passe vraiment. Donc, c'est vrai. Et vous savez, c'est rediffusé tout le temps. Puis ça a été rediffusé France 2, sur MTV, sur Télévision, etc. Et ça va finir ou pas finir, ou en tout cas se révéler dans une autre forme, ce qui va être donc au Théâtre de Paris à partir de
2019.
Ouais, septembre, dans un show incroyable qui est une adaptation de Palade pour la scène.
Et ça, c'est le scoop. Nous allons reprendre cette conversation dans quelques instants. Jean-Marc Ribes.
Jean-François.
Jean-François, pardon, Jean-François Ribes. Mais pour l'instant, est-ce que vous savez faire ça? Ah, il est magnifique. Ah, je le salue.
Très beau pop.
Non, c'est vrai, c'est pas toujours.
Vous pouvez le mettre avec les différentes phrases que vous avez retenues.
Oui, bien sûr.
Je vais faire un petit montage.
Ouais. Très bien, mais c'était juste pour lancer les pop news.
Il reprend du service. Dans quel état? On ne sait pas, mais il reprend du service. Et lui, c'est lui.
Live for nothing. Or die for something.
Rambo de retour en 2019, c'est Sylvester Stallone qui l'a annoncé sur son compte Instagram en postant une image du célèbre vétéran genou à terre et couteau à la main, assorti d'une date, automne 2019, et du texte suivant « Something wicked is coming in the way », soit « Quelque chose de pas très très sympa ce profil », on en tremble déjà.
Rambo, what most people call hell, he calls home.
Et là pour le coup c'est vraiment un vétéran là.
Ah oui,
d'accord, c'est un vétéran chez des vétérans. Bon,
c'est intéressant en même temps de se dire que le bodybuilding fait vivre plus vieux. Enfin, il y a quelque chose comme ça.
Et que ça conserve, oui, bien sûr.
Ça conserve.
Et la peinture.
Oui. Vous devriez vous y mettre d'ailleurs.
Vous trouvez?
Jean-Pierre, oui.
Ah oui. Ouais, bah, je sais pas. Moi, on me dit doucement, t'as des épaules trop larges, tu complexes des tas de gens quand tu te balades dans la rue. Donc j'essaie d'être gentil avec mes concitoyens.
On continue les pop news. Elles sont toutes jeunes, kawaii, à souhait, mignonnes comme des poupées, mais seulement si vous coupez le son, sinon elles font preuve de férocité. Elles, ce sont les trois japonaises du groupe Baby Metal qui viennent de dévoiler un titre, comment dire, énervé. Ça s'appelle Distorsion de Baby Metal, à consommer avec modération sous peine de perdre le peu d'audition qu'il vous reste.
Stephen Frears, oui, grand écart, l'illustre réalisateur entre autres des Liaisons Dangereuses et de The Queen, est de retour mais sur la BBC avec une série, son titre A Very English Scandal, un scandale politico-sexuel inspiré de l'histoire de Jeremy Thorpe, homme politique à la tête du Parti libéral anglais de 67 à 76, et accessoirement accusé de complot et incitation au meurtre sur la personne de Norman Scott, son ex-amant.
Oh. Liberal Party.
What's your name?
Norman, sir. 34,000.
Jeremy Thorpe is elected leader of the Liberal Party.
He was heaven.
You're the youngest man to lead a British political party in more than a century.
Careful now, I'm not sure any boy's worth ending up in prison for.
I was a victim.
My little bunny.
Of his lust.
He will destroy me and the party and my marriage.
Un scandale très anglais interprété par Hugh Grant dans le rôle de Thorpe et Ben Whishaw dans celui du jeune homme par qui le scandale va arriver. Début de diffusion le 20 mai sur la BBC et on l'espère rapidement après dans nos contrées.
France Inter. Pop-pop-pop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Rambo, c'est vous.
Vous avez remarqué comme c'est assez intéressant comme l'actualité a de plus en plus de talent par rapport aux créateurs. C'est-à-dire que maintenant, avant on inventait des choses, pas quoi, enfin la mort de Sardanapale, etc. Fallait faire rêver, réinventer le monde. Maintenant, c'est l'actualité a plus de talent que les artistes. C'est-à-dire qu'il faut faire le truc du ministre qui a tué son amant, etc. C'est-à-dire qu'on est nourri uniquement. C'est-à-dire que c'est une vengeance parce que c'est vrai que les hommes politiques nous ont piqué un peu du spectacle qu'on faisait avant.
Commentaire à chaud de Jean-Michel Ribes sur nos pop news. Merci Charline. Pop spécial Topor avec Jean-Michel Ribes. Ça continue juste après un petit Chris Isaac. Baby did a bad bad thing.
Baby did a bad, bad thing. Baby did a
so much you thought your little heart was gonna break in two. I didn't think so. You ever try with all your heart and soul to get your lover back to you? I wanna hope so. You ever pray with all your heart and soul just to watch her walk away? Baby, the bad, bad thing. Baby, the bad, bad thing. Baby, the bad, bad thing. I feel like crying. I cry. You ever toss and turn your line awake and thinking about the one you love? I think so. You ever close your eyes, you're making believe you're holding the one you're dreaming of? But if you say so, it hurts so bad when you finally know just how low, 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 low she'll go. Baby, the bad, bad thing. Baby, the bad, bad thing. Baby, it's a bad, bad thing. And I feel like crying. I feel like crying.
Baby did a bad, bad thing. Chris Isaak, un morceau de 1995, extrait de l'album Forever Blue. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de Jean-Michel Ribes pour évoquer la mémoire du génial Roland Topor, à qui Jean-Michel vient de dédier un prix. Alors, les mémoires d'un vieux con de Topor ressortent aux éditions Wombat, et dans ces mémoires, il y a une citation que j'aime beaucoup. Je la cite. « Je suis surpris qu'un gramme de merde tombant dans un kilo de caviar gâche tout, alors qu'un gramme de caviar tombant dans un kilo de merde n'arrange rien. » Quelle est votre citation favorite, vous?
Comment?
Jean-Michel, est-ce que vous avez un moment comme ça préféré dans les mémoires de...
Oh, il y en a beaucoup. Il y a des... Moi, j'aime beaucoup une histoire qu'il avait dit quand... Un jour, on dînait plutôt ensemble dans un restaurant près de la Comédie Française, et on se dépêchait parce qu'on voulait pas arriver en retard et déranger les gens et les faire lever de leur siège quand on allait arriver dans la salle. Et tout d'un coup, un type arrive. Ah, vous êtes là, mais c'est formidable. Mais je savais pas que vous étiez ensemble. Ça fait tellement plaisir. Et là, l'emmerdeur absolu. Et ça ne arrête pas. T'arrêtes pas. On a beau essayer de faire des signes, lui dire, on est obligé. Rien. Il continue. On n'en peut plus. On est harassé, on est mitraillé par une espèce de flot de bêtises et de fausses amitiés, etc. Et enfin, surprise, on y va, il s'en va. Et Roland me dit, t'as vu, quand il est parti, on aurait dit qu'un ami était entré.
Et avec Topor, vous partagez le goût de l'écriture. Un mercredi prochain sort Crise écrit, votre recueil d'aphorismes qui est édité chez Actes Sud. Ouvrage que vous dédiez, je cite, à tous ceux qui s'ennuient. C'est-à-dire que s'ils l'achètent tous, vous visez clairement le best-seller, là.
C'est oui, et à ceux qui n'aiment pas lire aussi. C'est important. C'est l'autre partie. Je les ai dédiés à ces deux gens-là. À ces deux groupes de personnes qui sont considérables. Et il y a, d'ailleurs, Gourillaume disait un truc très drôle. Il disait, hier, je travaillais avec lui donc, sur l'adaptation de Palace pour la scène. Il me disait, c'est bien que les gens lisent, ça fait moins de monde sur les routes.
C'est un mélange de mauvais esprit, de poésie, d'absurde, d'humour noir.
Il n'y a pas d'esprit s'il n'est pas mauvais. Hein.
Absolument. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais par exemple, cette phrase que vous citiez tout à l'heure, là, nous voulons l'émerveillement des baleines devant la lune. Vous êtes toporien, vous, par nature?
Je crois que ce qu'il y avait d'assez bien, c'est que quand on travaillait ensemble, il n'y avait pas de maître et de gourou et de disciple et quoi que ce soit. On avait chacun nos jardins secrets, mais on se rencontrait dans une espèce d'effervescence. C'est-à-dire, je devenais toporien et il devenait un petit peu ribien.
Ribésien.
Ribésien, comme
vous. Ah oui, ribésien.
Je vous remercie. À propos du directeur.
Ah, Bah oui. Ou alors celui-ci aussi, jouer un auteur vivant, c'est manger chaud. Et en fait, ça, c'est votre.
Comme manger chaud, oui.
Bah oui, c'est votre politique au rond-point.
C'est mon envie, c'est mon désir. C'est-à-dire que moi, je trouve que Shakespeare, notre contemporain, ça va. Mm-hmm. Et Quoi de Neuf, Molière, ça va aussi. Mm-hmm. Il y a quand même des choses aujourd'hui, des gens. Shakespeare, il a quand même pas parlé ni du sida, ni de la pollution, ni de Trump. Il y a des gens aujourd'hui qui racontent, qui réinventent aujourd'hui, et je pense que ça ferait et plaisir à Molière et à Shakespeare de savoir qu'ils n'encombrent pas définitivement toutes les scènes.
Mais comme vous ne jouez que des auteurs vivants, vous allez pourtant monter un spectacle de chansons de Topor.
Ça veut dire que Topor est vivant ? Non, non, de chansons de Topor et de moi et de Wagner. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand
je... Reinhard Wagner.
Comment ?
Reinhard Wagner.
Oui, oui.
Oui,
Reinhard
Richard.
Reinhard, oui, non. qui est exactement. Et, si vous voulez, quand on avait fait Bataille, par exemple, j'avais écrit avec Roland, avec Topor, et qui avait joué magnifiquement Arditi et Berléand et Marshall, oui, mais il y avait 50% encore de vivants, puisqu'on l'avait écrit ensemble. Mm-hmm. Donc, quand il y a encore 50% de vivants, voilà. Et moi, on me dit que je ne suis pas mort, donc je continue à penser que je peux être joué.
J'en atteste, vous êtes toujours vivant.
Comment ?
J'en atteste, vous êtes toujours vivant.
Ouais, deuxième scoop.
Oui, nous sommes en train de faire une émission ensemble.
Oui, absolument.
C'est ou alors c'est très mauvais signe.
Oui, ou alors vous n'êtes pas non plus.
Alors nous sommes tous morts.
Ça me rappelle un film. Oui, dans Crise écrite, moi, il y a un aphorisme que j'aime beaucoup. Mes plus beaux rêves sont ceux que je fais quand je m'endors au cinéma. Alors, en période cannoise, c'est quand même sacrément d'actualité. Et je voulais vous demander, est-ce que vous faites beaucoup de beaux rêves ? C'est juste pour savoir si vous pioncez beaucoup au ciné.
Malheureusement, oui. Je fais de beaux rêves. Et d'ailleurs, c'est Roland qui disait ça. Quand il disait, moi, je dors tout le temps, etc. Tout le temps, tu fous rien. Il dit, non, je travaille. C'est là où je travaille en prenant mon inspiration dans mes rêves. Voilà.
Le dernier film devant lequel vous avez dormi ?
Non, ça je peux pas le dire parce que c'était un sommeil trop profond pour que je m'en souvienne.
Et dans ce recueil, on retrouve évidemment du Topor. Vous dites plus Topor était noir et plus il nous éclairait. Est-ce que ça résume tout ce qu'on vient de raconter en fait ?
Peut-être. C'est-à-dire que quand je vous disais que c'était une issue de secours, c'était aussi quelqu'un qui, voilà, quand il était là, on voyait le monde autrement et on se disait tiens, c'est vrai que c'est respirable.
Vous pensez qu'il aurait été content d'avoir un prix à son nom ? Ça l'aurait flatté, ça
oui,
l'aurait
enfin,
amusé,
et,
ça
vous l'aurait... savez, alors, puisque tout à l'heure, vous faisiez la différence entre ricaneur et humoriste, etc. Lui, il supportait pas qu'on l'appelle un humoriste. Il trouvait ça trop gna 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 gna. Il disait, je suis un déconneur. Et je pense que le prix Topor célèbre les déconneurs, les vrais, les grands, ceux qui font tout péter.
Vive les déconneurs. Jean-Michel Ribes, nous approchons dangereusement de la fin de cette
qu'est-ce
émission.
Qu'est-ce que je vais faire alors si ça s'arrête après ? Comment je vais vivre ?
Je ne sais pas, ça va être difficile, je sais.
Oui.
Vous pourrez la réécouter en podcast.
Oui,
ou en attendant, mettre le casque, parce que je vais vous inviter à descendre avec moi à la cave pour chercher le dernier vinyle de l'émission.
Il faut être casqué.
Non, non, vous allez voir, j'ai quelque chose qui devrait vous plaire. Attendez, il faut que j'ouvre cette trappe. Venez, n'ayez pas peur. Alors voilà, j'ai capturé pas mal de rires que j'ai enfermés dans des boîtes pour faire une collection. Regardez, bon, là par exemple, c'est la boîte Topor. D'accord, alors celui-là je l'aime beaucoup, mais saurez-vous reconnaître les autres ? Ça vous dit quelque chose celui-là ?
Oui, ça me dit quelque chose et en même temps, c'est pas Claude Sérillon ?
Vous voulez réécouter ?
Oui.
C'est un homme de télévision.
Vous ?
Mais non, Dominique Farrugia.
Ah oui, que je viens de croiser d'ailleurs, où il était il n'y a pas très longtemps, à Agadir.
Très bien.
Je dénonce.
Voilà un troisième scoop. On continue, écoutez celle-ci.
C'est pas Topor ?
Non, je vous le révèle, c'est Ricky Gervais.
Ricky
Gervais, c'est un humoriste anglais absolument génial que vous devriez programmer. On serait ravis,
c'est
tellement
fait.
Ravis d'avoir Ricky Gervais à Paris.
C'est fait.
Vraiment, il serait bien chez vous. Tenez, celle-ci, écoutez.
Incapable.
Bah si, la mouche qui pète, Alain Chabat.
Ah oui, Alain Chabat.
Oui. C'est un standard, ça. Tiens, regardez celle-là.
Oh là là, c'est difficile, hein, quand même.
Ah, mais si, bien sûr. Jack Nicholson.
Ah oui. Mon Jack acteur préféré au monde.
Jack Nicholson, vous endormez pas dans les films de Jack Nicholson.
Ah non, jamais.
D'accord. Et celle-ci,
j'ai. Je vais même vous dire une chose, quand il n'est pas dans un film, j'imagine qu'il est dans le film, ce qui permet de le regarder.
Attendez, j'ai encore une boîte là. Écoutez celle-là. Julia Roberts.
Et Dieu sait, moi qui ai vécu 10 ans avec elle, j'aurais dû absolument m'en souvenir.
Et une petite dernière pour la route. Le rire de Mozart dans Amadeus.
Ah, c'est ça.
Mais oui.
Et c'est ça, que les très grands créateurs, etc., quand ils rient, c'est quand même très orgasmique, non?
On est d'accord?
Oui.
C'est ça que je voulais vous entendre dire.
Eh bien, je dis ce que vous voulez m'entendre dire.
Bon, mais ces boîtes sont aussi très pratiques pour, par exemple, pour tester les vannes de l'émission. Regardez, une vanne, n'importe laquelle. Un type se plaint à son docteur. « Docteur, vous m'avez greffé des oreilles de femme. » « Mais comment le savez-vous ?» dit le docteur. « Ben, j'entends tout, mais je comprends rien. » Okay, d'accord.
Faites attention, hein.
Pour la faire.
Ok. Faites attention. Non, d'accord.
Ok. Je vois l'ambiance. Alors, mettons un disque. Ça va détendre l'atmosphère. Philippe Catherine, le Grand Prix de Topor 2018 avec Pink Martini. Ça vous irait, ça? Ah, mais attendez, c'est pas une vanne, là. Non, balancez le morceau. Je ne t'aime plus, Philippe Catherine, avec Pink Martini dans Pop 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 sur France Inter. Jean-Michel Ribes, merci infiniment de nous avoir rendu visite aujourd'hui.
Merci à vous, on m'avait dit pique-pente sur votre émission, mais pas du tout.
Mais non,
vous voyez. Elle est à la fois professionnelle, spontanée,
tellement
et vous êtes très sympathique. Vous êtes très sympathique. Je le dis aux gens, ne pensez pas ce qu'on vous raconte, n'écoutez pas ce qu'on vous dit, ils sont très sympathiques.
Merci monsieur le directeur. Votre recueil d'aphorismes Cris écrits sort la semaine prochaine. Vous annoncerez lundi prochain la future saison du Théâtre du Rond-Point, présentation publique et gratuite ouverte à tous dans la limite des places disponibles, comme on dit, et retransmise en direct sur Internet. Et j'en profite pour annoncer que les Mémoires d'un vieux con de Roland Topor ressortent aux éditions Wombat. Lundi, dans Pop Pop Pop, le graffeur new-yorkais John Wan sera notre invité en compagnie de l'artiste anglais Adi Suleiman qui sera en live dans le studio de Pop Pop Pop. Mais avant lundi, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeuve à la pointe, suivez-nous. Plutôt comme disent ceux qui font des tutos théâtre sur YouTube. Abonnez-vous à notre balado diffusion. Merci.
Pensez à enlever la perruque pour sortir. Ça va être
merci plaisir. À l'équipe de Pop Pop Pop. Ghislain Fontana à la réalisation, à la technique Pierre-Yves de Rolin. Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef. Fanny Leroy, Claire-Sophie Collet, nos attachés de production. À la programmation musicale, Djoubaka et Simon Arestat. Notre stagiaire.